Chapitre 6. Le délire de la marquise dura toute la nuit et m'effraya au point que j'envoyai un émissaire à Clément, dans l'espoir qu'on pourrait le rejoindre et nous le ramener bien vite. Mais j'avais sans doute mal indiqué la direction qu'il fallait prendre, car mon messager ne trouva pas le marquis et ne revint que le jour suivant, après le retour de mon mari et de mon fils. La marquise était plus calme, l'épuisement avait triomphé de sa douleur. Milord et Monkshaven nous revenaient pleins d'espoir, et leur satisfaction me rendit un peu de courage. Tout s'était passé à merveille. Ils avaient accompagné Clément jusqu'à la côte, avaient aperçu un lougre que Milord avait ailé en homme de mer. Le capitaine avait immédiatement répondu à ce bel et bon langage nautique en envoyant un canot pour chercher le passager et en invitant ces messieurs à déjeuner avec lui. Mon fils avait décliné l'invitation. Mais Lord Ludlow n'avait pas mieux demandé que de faire honneur au grog, aux biscuits et aux poissons du capitaine. C'était, disait-il, le meilleur repas qu'il eût jamais fait depuis qu'il était au monde. Je suppose que c'est grâce à l'appétit que lui avait donné le voyage. Toujours est-il que sa bonne humeur avait touché le capitaine et que ce pauvre Clément s'était embarqué sous les meilleurs auspices. Malgré tout ce qu'il y avait de rassurant dans ces nouvelles, il fut convenu avec Milord que nous attendrions pour en parler que Madame de Courcy nous eût questionnés à cet égard, afin qu'elle pût choisir le moment où elle serait disposée à les entendre. Mais jamais elle ne proféra le nom de son fils. Elle causait des choses les plus indifférentes, s'informait avec un intérêt apparent de ce qui se passait dans le monde, cherchait à se rendre agréable et ne trahissait pas la moindre inquiétude, la plus légère préoccupation au sujet du voyageur. Cependant, il y avait dans sa voix quelque chose de douloureux, et son regard allait sans cesse d'un objet à l'autre, comme si elle n'eût osé l'arrêter sur aucun. Au bout de 8 jours, nous reçûmes, par le patron du lougre, une lettre de Clément qui avait débarqué sans obstacle sur les côtes de Normandie. Puis les semaines s'écoulèrent sans nous apporter d'autres nouvelles. J'avais fait part à mon mari de l'heureuse arrivée de Clément en présence de la marquise. C'était convenu entre Milord et moi. Madame de Courcy avait fait semblant de ne pas m'entendre, mais je vis bientôt qu'elle s'étonnait de ce que je ne parlais plus de son fils, et je commençais à craindre que, son orgueil cédant à l'inquiétude, elle ne demandât les nouvelles que je n'avais pas à lui donner. Un matin, à mon réveil, j'appris de ma femme de chambre que la marquise me faisait prier d'aller la voir aussitôt que je serais habillé. Je me doutais du motif de cette demande, et je tremblais tout le temps qu'on mit à faire ma toilette. Au lieu de m'encourager, Milord déclara franchement qu'il aimerait mieux recevoir une balle que d'être obligé de dire à cette pauvre mère qu'on n'avait pas de nouvelles de son fils. « Et pourtant, ajouta-t-il, j'ai la conviction qu'un de ces jours, nous verrons arriver notre fugitif accompagné de sa cousine. » Il fallut enfin aller trouver la marquise. Depuis quelques jours, elle ne mettait plus de rouge et n'affichait plus l'indifférence qu'elle avait montrée jusqu'alors. Elle resta silencieuse pendant quelques minutes. Puis elle proféra le nom de son fils en se couvrant la bouche de son mouchoir pour que je ne visse pas trembler ses lèvres. Nous n'avons pas eu de nouvelles depuis la lettre où il nous racontait son heureuse traversée, lui répondis-je aussi gaiement que possible. Il avait débarqué sans encombre, tout allait à merveille. Milord ne s'est jamais attendu à recevoir d'autres lettres. Il est persuadé que nous reverrons bientôt Clément et que celui-ci veut nous surprendre. Je ne le croyais pas, mais après tout, c'était possible. D'ailleurs, je n'avais pas autre chose à dire. C'eût été une impertinence que de témoigner de la pitié à une personne qui faisait autant d'efforts pour cacher son désespoir. Elle ne me répondit pas, sachant combien j'avais moi-même peu de foi en mes paroles. Et je fus trop heureuse lorsque Mistress Medlicott, en apportant le déjeuner, me fournit le moyen de sortir. Cette conversation m'avait rendue plus inquiète, plus impatiente que jamais. La pauvre mère ne quittait plus son lit. Non pas qu'elle fût malade, mais parce qu'elle n'avait pas le courage de s'habiller. Elle avait perdu l'appétit et se serait volontiers laissée mourir de faim si Medlicott ne lui avait fait prendre une nourriture qu'elle acceptait sans rien dire, pour ne pas avoir à lutter contre les insistances de cette excellente femme. C'est ainsi que nous vivions. Je n'osais plus compter les jours. Je perdais la notion du temps. Les mois passaient avec une lenteur désespérante. La marquise, à force d'écouter les moindres bruits qui se produisaient dans la maison, avait acquis une sensibilité d'oreille excessive. Le pied d'un homme franchissait-il la porte de la rue qu'un léger tour de l'œil trahissait l'attente de la pauvre mère. Elle retenait son haleine, jusqu'au moment où les pas se dirigeaient vers l'appartement du comte. Puis, fermant alors ses paupières flétries et laissant échapper un faible soupir, elle indiquait la déception poignante qu'elle venait d'éprouver. L'ancien régisseur, qui avait appris à Clément la mort du comte, se présenta enfin à l'hôtel, et je fus averti qu'il désirait me parler. Je descendis bien vite, ne voulant pas faire monter ce brave homme, dans la crainte que la marquise ne vînt à l'entendre. Je vois toujours ce bon vieillard. Il tenait son chapeau à deux mains et s'inclina jusqu'à terre lorsque j'entrai dans la pièce où il m'attendait. J'augurais mal d'un statut aussi profond, et ce fut en tremblant que je lui demandai s'il avait des nouvelles. « Oui, madame, répondit-il, en baissant la tête comme un enfant pris en faute. J'ai rencontré hier l'un de mes anciens camarades qui arrive de France, un nommé Lefebvre, attaché comme moi à la maison de la marquise, et si madame le permet, j'irai le chercher pour qu'il lui raconte lui-même tout ce qu'il m'a dit hier au soir. » Quelques instants après, Fléchier, c'est ainsi qu'on appelait l'ancien régisseur, me présenta son ami Lefebvre, qui attendait à la porte de l'hôtel, s'imaginant bien que je désirerais lui parler. Plus tard, j'appris d'autres détails qui complétèrent cette histoire et me firent comprendre, ce qui me ramène à mon point de départ, tout ce qu'il y a de dangereux à répandre l'instruction dans la basse classe. Une fois en France, il n'avait pas été difficile à Clément de pénétrer dans Paris, et d'arriver, après maints détours, jusqu'à une ruelle abominable qui débouchait dans la rue de l'école de médecine. J'ai entendu dire que c'était un lieu infâme, situé dans le voisinage de l'abbaye, où tant de nobles créatures, issues des meilleures familles, attendaient le jour du supplice. Mais il y avait dans cet affreux quartier un vieux serviteur des Courcis, d'une fidélité sur lequel notre fugitif n'avait pas le moindre doute. Je crois que c'était l'ancien jardinier de l'hôtel, celui qui entretenait ces parterres où mon pauvre Urian jouait autrefois avec le fils de la marquise. Toujours est-il que ce brave homme cacha Clément dans son grenier, qui lui procura de nouveaux habits, plus en rapport avec ceux de la classe ouvrière parisienne, et qu'après avoir attendu quelques jours pour détourner les soupçons, Clément put se mettre à la recherche de sa cousine. Il la trouva ainsi qu'on le lui avait dit, chez l'ancienne concierge de son père, Madame Babette, qui, moins fidèle ou plus intéressée, n'avait pas pour cette jeune fille les sentiments respectueux que le jardinier témoignait à son hôte. J'ai vu le portrait de Mademoiselle de Courcy, une miniature qui se trouvait en possession d'une femme de qualité, ancienne amie du comte, exilée, comme tant d'autres, par les fureurs populaires. Autant que je puis le supposer, d'après cette miniature, Virginie était comparativement plus grande et plus forte que le jeune marquis, dont les traits et la taille avaient dans leur délicatesse quelque chose de féminin. Ses cheveux noirs étaient disposés par petites boucles nombreuses. À cette époque, la coiffure indiquait l'opinion politique des individus, comme l'avaient fait jadis les mouches pendant la vie de ma grand-mère. Et l'arrangement des cheveux de Mademoiselle de Courcy me déplaisait, ou plutôt il blessait mes principes. Elle avait de grands yeux bruns dont le regard était doux et ferme. On ne peut pas connaître au juste la forme du nez par un portrait vu de face. Toutefois, les narines étaient nettement coupées et largement ouvertes. Je ne crois pas que le nez fût joli, mais la bouche avait un caractère tout spécial qui eût racheté n'importe quel visage. Cette bouche était grande, les coins s'enfonçaient profondément dans les joues, la lèvre supérieure, très arquée, se fermait à peine sur les dents et paraissait vivante. On eût dit, à en juger par le sérieux du regard et l'intelligence de cette bouche pleine de douceur, que la personne représentée dans ce portrait, attentive à je ne sais quel discours, avait une réponse toute prête qui allait tomber de ses lèvres, et l'on éprouvait le besoin de savoir ce qu'elle allait dire. Virginie de Courcy demeurait donc chez Madame Babette, qui tenait un hôtel borgne dans la partie nord de la ville. Cette espèce d'auberge était fréquentée, avant la Révolution, par des fermiers, des campagnards venant surtout de la Bretagne, et qui, à l'époque dont il s'agit, n'avaient plus rien à voir avec les Parisiens. Il en résulta que le maître de l'hôtellerie ne faisait plus ses affaires, avait cédé la maison aux frères de Madame Babette en paiement d'une somme qu'il devait à ce dernier. Celui-ci avait confié l'auberge à sa sœur, qui en gardait la porte conjointement avec son garçon, un marmousé d'environ 12 à 13 ans. C'était Madame Babette qui avait averti le comte de Courcy du danger qui le menaçait, mais le pauvre fou ne voulut jamais croire qu'il y eût, parmi les membres de sa chère race humaine, quelqu'un d'assez méchant pour lui faire le moindre mal. La confiance de son père rassurait Virginie. Il fallut que Madame Babette employât la ruse pour attirer la jeune fille chez elle, le jour même où le pauvre comte fut mis à la lanterne. Depuis cet horrible instant, Mademoiselle de Courcy habitait un affreux bouge, situé derrière la loge de Madame Babette. et n'avait quitté ce réduit que pour aller dans la petite chambre de la portière, dont elle se gardait bien de franchir le seuil. Je ne crois pas que l'ancienne concierge regrettât d'avoir sauvé la noble orpheline, qui sans elle eût évidemment partagé le sort du comte. Mais la pauvre femme n'était pas riche, son frère la payait le moins possible. Elle ne trouvait qu'à grand-peine le moyen de nourrir son fils, et bien que Virginie mangeât fort peu, Madame Babette ne tarda pas à sentir qu'elle s'était imposé une charge d'autant plus lourde qu'on ne pouvait pas prévoir l'époque où elle serait délivrée de ce fardeau. Les deux Courcy étaient complètement ruinés. C'était d'ailleurs une famille éteinte. Et sans donner ouvertement les mains à ce projet, Madame Babette commençait à penser que Mademoiselle Virginie, seule au monde, sans pain et sans asile, ne ferait pas mal d'encourager les intentions du jeune Morin, fils de l'acquéreur de l'auberge et, par conséquent, propre neveu de la dite concierge. Morin, fils, venait tous les deux jours à l'hôtel recevoir l'argent que sa tante avait touché pour son père. Et c'est ainsi qu'il avait vu la protégée de Madame Babette. Il lui avait été facile de reconnaître qu'elle était d'un rang bien supérieur au sien, et devina, rien qu'à la grâce et à la dignité de la jeune fille, qu'elle avait perdu ses protecteurs naturels par l'affreuse mort qu'on réservait aux nobles. Mais il ne put jamais obtenir de sa tante le véritable nom de Mademoiselle de Courcy. Toujours est-il que, princesse ou paysanne, Morin fils devint amoureux de la proscrite, et que si d'abord il ne révéla sa passion que par la réserve pleine de gaucherie que lui inspirait la noble fille, il en vint sans doute à faire le même raisonnement que sa tante, et à concevoir des espérances qui lui parurent de plus en plus fondées. Un jour viendrait, pensait-il, où, réduite à la dernière misère, la pauvre abandonnée verrait en lui un consolateur, un soutien, et il serait alors le plus heureux des hommes. En attendant, Jean Morin eut pour Madame Babette, qu'il méprisait autrefois, des bontés et des prévenances qui touchèrent la pauvre femme. Il tenait ses comptes, lui apportait des petits présents, et s'attacha surtout à gagner les bonnes grâces de Pierre Babette, qui pouvait lui apprendre tout ce que faisait Mlle Cannes, ainsi qu'il appelait la jeune comtesse. Pierre devina sans peine quel était le motif des questions de son cousin, et mit au service de celui-ci toute la ruse de sa précoce intelligence. Il fut assez difficile à Clément de découvrir l'endroit exact où sa cousine était cachée. Il est même probable qu'il n'y serait pas parvenu si le jardinier qui l'hébergeait ne s'en était pas mêlé. Jacques, c'était le nom de ce brave homme, connaissait Madame Babette depuis longtemps et pouvait aller la voir causer avec elle et finir par apprendre ce qu'était devenu la fille du comte. Madame Babette accueillit le jardinier comme une ancienne connaissance. Toutefois, il fallut que Jacques se plaignît de son rhumatisme pour qu'elle consentît à le faire entrer, car elle l'avait reçu d'abord sous la porte cochère, et ce ne fut qu'après s'être assurée qu'il n'y avait personne dans sa loge qu'elle l'introduisit chez elle. À peine le jardinier était-il assis, qu'une jeune femme élancée aux joues pâles, aux grands yeux pleins de tristesse, ouvrit la porte qui communiquait avec une pièce voisine et la referma aussitôt. « C'est Mademoiselle Cannes, » s'empressa de dire la portière. Jacques ne pouvait s'y méprendre. Il continua de jaser pendant quelques minutes et vint rapporter au marquis le résultat de sa recherche. Mais pourquoi, se demandait-il, Madame Babette ne m'a-t-elle pas fait la moindre question à l'égard de la famille? Il est certain qu'elle a évité de faire allusion à M. Clément et à Madame la marquise. Elle croit sans doute qu'ils sont morts, et c'est une brave créature d'avoir gardé le silence au sujet de Mademoiselle. Je suppose que la portière, voulant favoriser son neveu, était peu jalouse de parler de sa recluse à quelqu'un qui pouvait contrecarrer ses plans. Mais Jacques ne se doutait pas des intentions de Jean Morin, dont il ignorait l'existence. Le soir même, Clément s'installait pour y passer la nuit dans l'une des chambres que louait Madame Babette. Il avait repris son costume de paysan normand, rehaussé de quelques babioles pimpantes, afin qu'on devinât qu'il avait la bourse pleine. Plusieurs jours s'écoulèrent sans amener de résultats. Il se présentait chaque matin devant la loge. Madame Babette ouvrait un guichet pratiqué dans la fenêtre, recevait son argent, car la petite pièce qu'il occupait était louée tant par nuit, et le panneau se refermait avant qu'il eût trouvé le moyen d'entamer la conversation. Il fallait sortir. Mais où passer la journée? Les rues étaient pleines de cette canaille sanguinaire toujours prête à se jeter sur quiconque ressemblait à un aristocrate. Et ce pauvre Clément avait la tournure élégante sous n'importe quel habit. Vers la fin de la semaine, il fit connaissance avec Pierre et tâcha de se l'attacher. Celui-ci, plus rusé qu'un renardeau, soupçonna que les avances du jeune homme cachaient un intérêt quelconque. Il accepta la galette qui lui était offerte, causa volontiers avec le locataire, mais il se tint sur ses gardes et surveilla le beau Normand. Comme il rentrait un soir, il surprit sa nouvelle connaissance, étudiant les ombres qui se dessinaient sur la fenêtre de la loge, dont les rideaux étaient fermés. Le gamin craignit d'abord pour les écus dont la concierge était dépositaire. Cependant, il ne manquait pas un denier lorsque, dans la soirée du jour suivant, Jean Morin vint arrêter ses comptes. L'opération terminée, Madame Babette, qui avait eu soin de barrer la porte du couloir afin d'empêcher Mademoiselle Cannes de se retirer dans sa chambre, pria son neveu de leur tenir compagnie. La jeune fille travaillait en silence. Morin fils et la portière jasaient tous deux tranquillement, quand une voix de ténor, pleine de charme et de distinction, chanta auprès de la fenêtre l'un des airs les plus expressifs des Noces de Figaro. Les deux causeurs suspendirent leur entretien, et ils reprirent quelques instants après, sans ajouter d'importance à cet incident. Mais l'intérêt avec lequel Virginie avait écouté la voix qui venait de se faire entendre n'avait pas échappé au petit Pierre. Lorsque le lendemain, à la même heure, la sérénade de la veille se renouvela, il courut à la porte de l'hôtel, qu'il ouvrit avec précipitation. La rue était déserte, on n'y voyait que le Normand, dont la main était posée sur le cordon de la sonnette. Celui-ci rentrait pour se coucher, qu'y avait-il de plus simple? Toutefois, le lendemain matin, notre paysan vint frapper à la porte de la loge et pria M. Pierre de vouloir bien accepter deux boucles en argent qu'il se permettait de lui offrir. Pierre, en sa qualité de Français, avait le goût de la parure et fut enchanté du cadeau. Il s'empressa d'attacher ses boucles aux genoux de sa culotte, et le Normand, qui semblait prendre plaisir à l'ardeur qu'il déployait dans cette opération, lui dit en élevant la voix « Prenez garde, mon ami, de trop aimer la toilette. Un jour, dans quelques années d'ici, lorsque vous offririez votre cœur à la jeune demoiselle qui vous ferait perdre la raison, elle pourrait bien vous répondre « Nenni, vraiment, lorsque je me marierai, ce sera pour prendre un homme, et non pas un petit maître, un homme qui honorera l'humanité par ses vertus, quel que soit l'état qui lui ait plu de choisir. » Ces paroles furent très goûtées du jeune Pierre, qui était ravi de se voir considéré comme amoureux, fût-ce même comme amoureux transi, et dont les mots sonores de vertu et d'humanité flattaient l'oreille comme appartenant au vocabulaire d'un patriote. Quant à l'impression qu'elles avaient pu produire sur la dame à qui elles étaient adressées, le pauvre Clément n'en devina rien pour le quart d'heure. Mais quand il revint le soir, il entendit fredonner derrière Madame Babette, qui allumait sa lampe. Cet air des Noces de Figaro, qu'il avait chanté les deux jours précédents, et qu'il reprit d'une voix forte, comme il traversait la cour. Voilà notre chanteur, s'écria Madame Babette. Tiens, c'est le Normand. Il chante aussi bien qu'à l'opéra. Pierre fut frappé de cette remarque, et résolut de redoubler de surveillance. Il croyait toujours que la bourse de la concierge était le point de mire du paysan. Mais le lendemain, lorsqu'à la grande surprise de Dame Babette, Mademoiselle Cannes exprima le désir d'aller acheter différentes choses, le petit Madré comprit qu'il existait une relation quelconque entre les chants du soir et ce projet de sortie vraiment inexplicable. Il n'est pas besoin de vous dire qu'il suivit la pauvre fille et vit de loin qu'un étranger dont il ne connaissait pas les vêtements parlait à Mademoiselle Cannes, lui offrait son bras et disparaissait avec elle au détour de la rue. Pierre revint tout en émoi raconter à sa mère ce qu'il avait vu. À peine terminait-il sa narration que Virginie rentrait le visage radieux et couvert d'une rougeur qu'on ne lui avait pas vue depuis la mort de son père.